St. Peter's, 1925-1929, de 9 à 13 ans. Chapitre 1, premier jour. En septembre 1925, alors que je venais d'avoir 9 ans, je m'embarquais dans la première grande aventure de ma vie, le pensionnat. Ma mère avait choisi pour moi un collège privé dans une partie de l'Angleterre aussi proche que possible de chez nous, au Pays de Galles. Il s'appelait St. Peter's. L'adresse postale complète était la suivante, St. Peter's School, Weston-super-Mare, Somerset. Weston-super-Mare était une station balnéaire plutôt modeste, avec une vaste plage de sable, une jetée d'une incroyable longueur, une esplanade le long du front de mer, un fouillis d'hôtels et de pensions de famille et environ 10 000 petites boutiques vendant des sauces et des pelles, des sucres d'orge et des glaces. Elle est située presque en face de Cardiff, de l'autre côté du canal de Bristol, et par temps clair de l'esplanade de Weston, on aperçoit à une vingtaine de kilomètres la côte du Pays de Galles qui se profile, pâle et laiteuse, à l'horizon. En ce temps-là, le plus simple pour aller de Cardiff à Weston-super-Mare, c'était de prendre le bateau. Ces bateaux étaient superbes. C'étaient des vapeurs à houbes, avec de gigantesques roues sur les côtés, et les roues faisaient un bruit épouvantable en battant et en barattant l'eau. Le premier jour de mon premier trimestre, je partis en taxi dans l'après-midi avec ma mère pour me rendre à Cardiff afin de prendre le vapeur jusqu'à Weston-super-Mare. Tous les vêtements que je portais étaient flambant neufs et marqués à mon nom. Je portais des souliers noirs, des bas de laine gris au revers bleu, une culotte courte en flanelle grise, une chemise grise, une cravate rouge, un blazer en flanelle gris avec l'insigne bleu de l'école sur la poche poitrine et une casquette grise de l'école, également ornée du même insigne au-dessus de la visière. On enfourna dans le taxi qui allait nous conduire au port ma malle, toute neuve, et ma boîte à nanan, neuve aussi, portant toutes deux l'inscription « R.Dal » peinte en noir. Une boîte à nanan, c'est un petit coffre en bois de pin solidement construit, et pas un seul petit garçon n'est jamais parti comme interne dans un pensionnat anglais sans en emporter une. C'est son propre entrepôt secret, aussi secret que le sac à main d'une dame. Et, selon une règle tacite, aucun autre garçon, aucun professeur, et pas même le principal, n'a le droit de chercher à voir le contenu de votre boîte à nanan. Le propriétaire garde la clé dans sa poche en toutes circonstances. À St. Peter's, les boîtes à nanan étaient rangées les unes contre les autres le long des quatre murs du vestiaire, et votre propre boîte était posée juste sous la patère où étaient accrochés vos vêtements de sport. Une boîte à nanan, comme son nom l'indique, c'est une boîte dans laquelle on range ses friandises. Dans les collèges privés, à l'époque, les mères, inquiètes, envoyaient un colis par semaine à leurs petits garçons voraces. Et une boîte à nanan, de façon générale, contenait probablement à n'importe quel moment de l'année la moitié d'un cake au raisin fait à la maison, un paquet de biscuits fourrés, deux oranges, une pomme, une banane, un pot de confiture de fraises ou de marmite, une plaque de chocolat, un sac de bonbons à la réglisse et une boîte de limonade en poudre de chez Bassett. Une école anglaise en ce temps-là appartenait au principal qui la dirigeait et son but premier était de gagner de l'argent. Il avait donc tout intérêt à nourrir les élèves aussi peu que possible et à encourager les parents, grâce à des ruses variées, à envoyer des colis de nourriture à leurs rejetons. « Mais certainement, chère Madame Dalle, envoyez donc de temps en temps quelques gâteries à votre petit garçon, disait-il. Quelques oranges peut-être et des pommes une fois par semaine. Les fruits coûtaient fort cher. Et un bon cake au raisin, un gros cake peut-être, car les petits garçons bon appétit, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, aussi souvent que vous voulez, plus d'une fois par semaine, si vous le désirez. Il sera bien entendu très bien nourri ici, la meilleure nourriture possible. Mais elle ne lui paraîtra jamais si savoureuse que la cuisine de sa maman, n'est-ce pas ?» Vous ne voudriez pas, j'en suis sûr, qu'il soit le seul à ne pas recevoir chaque semaine un beau colis de chez lui. Outre les friandises, une boîte à nanan contenait également toutes sortes de trésors, tels que aimants, canifs, compas, pelotes de ficelle, voitures de course mécanique, une demi-douzaine de soldats de plomb, une boîte de tours de magie, quelques jeux de puces, un haricot sauteur mexicain, un lance-pierre, des timbres étrangers, une ou deux boules puantes. Et je me rappelle un garçon du nom d'Arkle qui avait percé un trou d'aération dans le couvercle de sa boîte à nanan et qui y gardait une grenouille apprivoisée qu'il nourrissait de limaces. Nous voilà donc partis, ma mère et moi, avec ma malle et ma boîte à nanan. Nous montâmes à bord du vapeur à aubes et traversâmes le canal de Bristol dans une nuée d'embrun. Cette partie du voyage me plut beaucoup, mais je commençais à éprouver une certaine appréhension en débarquant sur la jetée de Weston-super-Mare, où la malle et ma boîte à Nanan furent cette fois chargées sur un taxi anglais qui allait nous conduire à St. Peter's. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Jamais encore je n'avais passé une seule nuit loin de notre nombreuse famille. St. Peter's était construit sur une colline au-dessus de la ville. C'était un long bâtiment en pierre de 3 étages qui ressemblait plutôt à un asile de fous. Devant s'étendait la zone réservée aux jeux et aux sports, avec 3 terrains de football. Un tiers de l'école était réservé au principal et à sa famille. Dans le reste, étaient logés les élèves, environ 150 en tout, si mes souvenirs sont exacts. Lorsque nous descendîmes du taxi, toute l'allée était encombrée de petits garçons, accompagnés de leurs parents, avec leur malle et leur boîte à nanan. Un homme, que je supposais être le principal, circulait parmi eux, serrant les mains au passage. Je vous ai déjà dit que tous les directeurs d'école sont des géants, et celui-là ne faisait pas exception à la règle. Il avança vers ma mère pour lui serrer la main, puis il serra la mienne, et ce faisant m'adressa le bref sourire dont un requin pourrait gratifier un petit poisson juste avant de le gober. Une de ses dents de devant, remarquai-je, était sertie d'or, et ses cheveux étaient si pommadés qu'ils luisaient comme du beurre. « Parfait, me dit-il. Allez vite vous présenter à la surveillante. » S'adressant à ma mère, il ajouta d'un ton vif « Au revoir, Madame Dahl, à votre place, je ne m'attarderai pas, nous allons nous occuper de lui. » Ma mère comprit l'allusion. Elle m'embrassa sur la joue, me dit au revoir et remonta aussitôt dans le taxi. Le principal se dirigea vers un autre groupe. Je me retrouvai planté à côté de ma malle, flambant neuve, et de ma boîte à nanan. Et je me mis à pleurer.